Chapitre 35. Par terre et par mer. Le port de destination du navire m'importait peu. Où que j'allasse, je savais que je me rendais près de Madame Van Brandt. Elle avait de nouveau besoin de moi, elle me réclamait de nouveau. Que le point indiqué par la main imaginaire de l'enfant se trouvât à l'étranger ou dans ma patrie, cela n'avait pas d'importance, car j'étais destiné à m'y rendre. Lorsque je descendrais à terre, je me trouverais de nouveau dirigé dans le voyage à accomplir. Je le croyais aussi fermement que je croyais avoir été guidé jusque-là par la vision de l'enfant. Je n'avais pas dormi depuis deux nuits et la fatigue m'accablait. Je descendis dans la cabine et j'y trouvai un coin inoccupé où je pus m'étendre pour me reposer. Lorsque je m'éveillai, il faisait déjà nuit et le navire était en mer. Je montai sur le pont pour respirer l'air frais. Le sentiment de l'assoupissement me revint bientôt et je dormis de nouveau pendant plusieurs heures. Mon ami, le médecin, aurait sans doute attribué ce besoin prolongé de repos à l'état d'épuisement de mon cerveau, surexcité par des illusions qui avaient duré plusieurs heures sans interruption. Quelle qu'en fût la cause, je ne me réveillai que par intervalles durant la plus grande partie du voyage. Le reste du temps, je demeurai couché et plongé dans le sommeil comme un animal fatigué. Lorsque je débarquai à Rotterdam, mon premier soin fut de demander le chemin du consulat anglais. Il ne me restait qu'une modique somme d'argent et, pour ce que j'en savais, je ferais bien, avant toute chose, de prendre les mesures nécessaires pour remplir ma bourse. J'avais avec moi mon sac de voyage. Dans mon excursion à Greenwater Broad, je l'avais laissé à l'auberge de la ville de marché et le garçon l'avait placé dans la voiture lorsque j'étais parti pour retourner à Londres. Le sac contenait mon carnet de mandat et certaines lettres qui m'aidèrent à faire reconnaître mon identité par le consul. Il me donna gracieusement la lettre d'introduction nécessaire auprès du correspondant de mon banquier de Londres à Rotterdam. Ayant obtenu mon argent et acheté certains objets dont j'avais besoin, j'arpentai lentement la rue, ne sachant ce que je devais faire, et attendant avec confiance l'événement qui devait me guider. Je n'avais pas fait 100 pas que j'aperçus le nom de Van Brandt inscrit sur les persiennes d'une maison qui paraissait affectée à des affaires commerciales. La porte de la maison était ouverte. Une seconde porte, sur un des côtés du passage, conduisait dans les bureaux. J'y entrai et je demandai M. Van Brandt. On m'adressa à un commis qui parlait anglais. Il m'apprit qu'il y avait 3 associés de ce nom dans la maison et me demanda lequel je désirais voir. Je me rappelai le prénom de Van Brandt et je l'indiquai au commis. On ne connaissait dans les bureaux aucun M. Ernest Van Brandt. « Nous ne sommes ici que la succursale de la maison Van Brandt, » m'expliqua le commis. « L'administration centrale est à Amsterdam. Si vous vous y adressez, on saura peut-être où se trouve M. Ernest Van Brandt. » Peu m'importait où j'irai, pourvu que je me rapprochasse de Madame Van Brandt. Il était trop tard pour partir ce jour-là, je couchai donc dans un hôtel. La nuit se passa tranquillement et sans incident. Le lendemain, je partis pour Amsterdam par la diligence. À mon arrivée, je renouvelai ma demande d'information à l'administration centrale et l'on m'adressa à l'un des associés de la maison. Il parlait parfaitement anglais et il me reçut avec une apparence d'intérêt que je ne pus comprendre tout d'abord. « Je connais bien M. Ernest Van Brandt, » me dit-il. « Puis-je vous demander si vous êtes un parent ou un ami de la dame anglaise qui l'a présentée ici comme sa femme ?» Je répondis affirmativement et j'ajoutai « Je suis ici pour prêter à cette dame toute l'assistance dont elle pourrait avoir besoin. » Les paroles suivantes du négociant m'expliquèrent l'apparence d'intérêt avec lequel il m'avait reçu. « Vous êtes le très bienvenu, me dit-il. Vous nous sortez, mes associés et moi, d'une grande inquiétude. Je ne puis vous expliquer ce que j'entends par là qu'en vous parlant un moment des affaires de la maison. Nous avons un établissement de pêcherie dans l'ancienne ville d'Antwisen, sur les rives du Zuiderzee. M. Ernest Van Brandt en possédait jadis une part qu'il a vendue plus tard. Depuis quelques années, les bénéfices que nous en tirions ont diminué et nous songeons à abandonner cette pêcherie si nos affaires ne s'y améliorent pas après une nouvelle tentative. En attendant, ayant une place vacante au comptoir d'un cuisine, nous avons songé à M. Ernest Van Brandt et nous lui avons offert l'occasion de renouer ses relations avec nous à titre de commis. Il est parent d'un de mes associés, mais je suis forcé de vous avouer franchement que c'est un très vilain homme. Il nous a récompensés de notre bonté pour lui en nous volant et il a pris la fuite, nous ne savons dans quelle direction. La dame anglaise et son enfant se trouvent abandonnés à Enkhuizen et si vous n'étiez pas venu ici aujourd'hui, nous n'aurions su qu'en faire. J'ignore si vous le savez, monsieur, mais le doute que nous avons qu'elle soit réellement la femme de M. Ernest Van Brandt rend la situation de cette dame doublement désastreuse. Nous savons positivement qu'il a épousé secrètement une autre femme il y a quelques années déjà et nous n'avons aucune preuve que sa première femme soit morte. Si nous pouvons vous aider en quelque façon à secourir votre infortuné compatriote, je vous prie de croire que nos services sont à votre disposition. » Avec quel intérêt haletant j'écoutais ces paroles, inutile de le dire. Van Brandt l'avait abandonné. Sûrement, comme me l'avait dit ma pauvre mère, elle allait maintenant revenir à moi. L'espérance qui m'avait abandonné me remplit de nouveau le cœur. L'avenir que j'avais craint si longtemps d'envisager réapparut à ma vue, brillant de la promesse d'un bonheur prochain. Je remerciai le brave négociant avec une ardeur qui l'étonna. « Aidez-moi seulement à parvenir jusqu'à Enkhuizen, lui dis-je, et je réponds du reste. » « Le voyage vous entraînera à quelques dépenses, répliqua le négociant. Pardonnez-moi de vous adresser crûment cette question. Avez-vous de l'argent ?»« Amplement d'argent. » »« Très bien, le reste sera assez facile. Je vais vous confier aux soins d'un de vos compatriotes qui est employé dans nos bureaux depuis des années. » Le moyen le plus commode pour vous, étranger, sera de voyager par mer et mon anglais vous montrera où louer un bâtiment. » Quelques minutes après, nous nous dirigions, le commis et moi, vers le port. Je trouvais, à louer un bâtiment et à engager un équipage, des difficultés que je n'avais pas prévues. Cela fait, il fallut acheter les provisions du voyage. Grâce à l'expérience de mon compagnon et à la cordiale bonne volonté avec laquelle il exerça, mes préparatifs se trouvèrent terminés avant la chute de la nuit. Je me vis à même de mettre à la voile le lendemain pour ma destination. Le bâtiment avait le double avantage pour naviguer sur le Zuiderzee, d'être grand et de tirer très peu d'eau. La cabine du capitaine se trouvait à l'arrière et les deux ou trois hommes qui formaient l'équipage étaient casés à l'avant. Tout le milieu du bâtiment, séparé d'un côté et de l'autre du capitaine et de l'équipage, me fut assigné pour cabine. Dans ces conditions, je n'avais pas de motif pour me plaindre du manque d'espace, le bâtiment jaugeant entre 50 et 60 tonneaux. J'avais un lit confortable, une table et des chaises. La cuisine se trouvait fort éloignée de moi, à l'avant du bâtiment. Sur ma demande, j'entrepris le voyage sans domestique ni interprète. Je préférais être seul. Le capitaine hollandais avait été employé à une époque antérieure de sa vie dans la marine marchande française et nous pouvions causer en français toutes les fois que c'était nécessaire ou utile. Nous laissâmes derrière nous les clochers d'Amsterdam et nous naviguâmes sur les eaux calmes du bras de mer Y en route pour le Zuiderzee. L'histoire de ce golfe remarquable est un roman. Il n'existait pas à l'époque où Rome était maîtresse du monde. Là où roulent aujourd'hui les vagues, de vastes étendues de forêts entouraient un grand lac intérieur avec un seul fleuve pour lui servir d'issue dans la mer. Gonflé par une succession de tempêtes, le lac déborda et les eaux furieuses, détruisant tous les obstacles, ne s'arrêtèrent que lorsqu'elles eurent atteint les dernières limites du pays. La grande mer du Nord se fraya son chemin à travers les crevasses des ruines et, depuis cette époque, le Zuiderzee exista comme nous le voyons aujourd'hui. Les années s'écoulèrent, les générations d'hommes se succédèrent l'une à l'autre et sur les rivages de la nouvelle mer s'élevèrent de grandes villes populeuses, riches en commerce et fameuses dans l'histoire. Leur prospérité dura pendant des siècles avant que le résultat de ces vastes séries de changements fût arrivé à maturité et se révélât de lui-même. Isolés du monde entier, orgueilleux d'eux-mêmes et de leur bonne fortune, indifférents à la marche du progrès chez les nations environnantes, les habitants du Zuiderzee tombèrent dans la fatale torpeur des peuples séquestrés. Les quelques membres de la population qui avaient conservé un reste de leur vieille énergie émigrèrent, tandis que la masse restée derrière assista avec résignation au déclin de son commerce et à la ruine de ses institutions. Dans les années voisines du XIXe siècle, la population se compta par centaines, là où elle s'était jadis dénombrée par milliers. Le commerce disparut, des rues entières devinrent désertes. Des ports, jadis encombrés de navires, furent détruits par l'accumulation irrésistible des sables. De nos jours, la décadence de ces villes, jadis florissantes, est si complètement irrémédiable que le prochain grand changement attendu est l'épuisement de l'étendue d'eau, aujourd'hui dangereuse et inutile, et la culture avantageuse de la terre reconquise par des générations encore à naître. Telle est, racontée brièvement, l'étrange histoire du Zuiderzee. En avançant dans notre voyage et en quittant le golfe, je remarquai la teinte bronzée de la mer causée par les bancs de sable qui colorent l'eau peu profonde et rendent la navigation dangereuse pour les marins inexpérimentés. Nous amarrâmes pour la nuit à l'île de pêcheurs de Marken, un lieu bas, perdu et désolé, à ce que je pus voir au dernier rayon du crépuscule. Ça et là, les cabanes à pignons, perchées sur les hauteurs, se dessinaient en noir sur le ciel sombre et gris. Ça et là, une figure humaine apparaissait auprès de l'eau, plongée dans la contemplation du bâtiment étranger. Et ce fut là tout ce que je vis de l'île de Marken. Couché tout éveillé dans le silence de la nuit, seul sur une mer étrangère, il y eut des instants où je commençais à douter de la réalité de ma propre situation. Tout cela n'était-il qu'un rêve ? Mes pensées de suicide, ma vision de la mère et de la fille, mon retour dans la métropole, guidé par l'apparition de l'enfant, mon voyage en Hollande, mon ancrage nocturne dans une mer inconnue, n'étaient-ils, à proprement parler, que des fragments d'un trouble mental morbide, que des illusions dont je pouvais me réveiller d'un moment à l'autre, pour me retrouver, rendu à la raison, dans l'hôtel de Londres, ahuri par des doutes qui m'éloignaient de plus en plus de toute conclusion positive, je quittai mon lit et je montai sur le pont pour changer de lieu. La nuit était calme et nuageuse. Dans l'espace vide et noir qui m'entourait, l'île n'était qu'une ombre encore plus noire et pas davantage. Le seul bruit qui atteignit mes oreilles était la lourde respiration du capitaine et de son équipage, dormant de chaque côté de moi. J'attendis, en contemplant tout autour le cercle d'obscurité au milieu duquel je me trouvais placé. Aucune vision nouvelle ne m'apparut. Lorsque je retournai dans ma cabine et que je m'endormis enfin, aucun rêve ne m'arriva. Tout ce qui était mystérieux, merveilleux dans les derniers incidents de ma vie paraissait être resté derrière moi en Angleterre. Une fois en Hollande, mes démarches avaient été influencées par des circonstances parfaitement naturelles et par des découvertes banales qui auraient pu se révéler d'elles-mêmes à tout homme dans ma position. Que signifiait ceci ? Mes dons de voyant, en fait d'apparition, m'avaient-ils quitté dans ce nouveau pays et parmi ce peuple étranger ? Ou bien ma destinée m'avait-elle conduit au lieu où devaient finir les tourments de mon pèlerinage terrestre ? Qui eût pu le dire ? Le lendemain matin, de bonne heure, nous remîmes à la voile. Notre marche tendait presque au nord. D'un côté de moi se trouvait la mer bronzée, devenant, sous certaines conditions de l'atmosphère, d'un sombre gris de perles. De l'autre, la côte plate et sinueuse, alternativement composée de sable jaune et de vertes prairies brillantes, variées par intervalles, grâce aux villes et aux villages dont les toits de tuiles rouges et les bizarres clochers d'église se détachaient gaiement sur le ciel bleu et clair. Le capitaine me proposa de visiter les villes fameuses d'Edam et de Horn, mais je refusai de descendre à terre. Mon seul désir était d'atteindre l'ancienne ville dans laquelle Madame Van Brandt avait été abandonnée. au moment où nous modifions notre marche pour gagner le promontoire sur lequel est situé Enkhuizen, le vent tomba. Puis il changea de direction et souffla avec une violence qui augmenta grandement les difficultés de la navigation. J'insistai pour continuer notre route aussi longtemps que cela serait possible. Après le coucher du soleil, la violence du vent s'abattit. La nuit arriva sans un nuage et le ciel étoilé nous gratifia de sa pâle et mélancolique clarté. Au bout d'une heure, le vent capricieux changea de nouveau en notre faveur et vers les 10 heures, nous entrâmes dans le port désolé d'Enkhuizen. Le capitaine et l'équipage, fatigués de leurs efforts, mangèrent leur frugal souper et allèrent se coucher. Au bout de quelques minutes, je me trouvai seul éveillé sur le bâtiment. Je montai sur le pont et je regardai autour de moi. Notre bâtiment était amarré à un quai désert. À l'exception de quelques petits navires visibles près de nous, le port de ce lieu jadis prospère n'offrait qu'une vaste solitude d'eau, coupée çà et là par de tristes bancs de sable. En regardant à terre, je distinguai les édifices solitaires de la ville morte, noire, affreuse et terrible, à la clarté mystérieuse des étoiles. On n'apercevait nulle part ni une créature humaine, ni même un animal errant. La ville aurait pu avoir été dévastée par la peste, tant elle paraissait vide et inanimée. Un peu plus de 100 ans auparavant, le recensement de sa population atteignait 60 000 âmes. Les habitants en étaient tombés au 10e de ce chiffre lorsque je contemplai alors Enkhuizen. Je me demandais quelle devait être ma première démarche. J'avais certainement toute chance de ne point découvrir Madame Van Brandt si je m'aventurais, seul et sans guide, dans la ville pendant la nuit. De notre côté, maintenant que j'avais atteint le lieu dans lequel elle vivait sans amis et abandonnée, elle et son enfant, pourrais-je supporter patiemment le fastidieux intervalle qui devait s'écouler avant la venue du matin et le réveil de la ville ? Je connaissais trop bien ma disposition à me tourmenter moi-même pour accepter cette dernière alternative. Quoi qu'il dût en advenir, je résolus de parcourir Enkhuizen dans la simple chance de passer devant les bureaux de la pêcherie et de découvrir ainsi l'adresse de Madame Van Brandt. Prenant d'abord la précaution de fermer à clé la porte de ma cabine, je passai du navire sur le quai désert et j'entrepris ma course nocturne à travers la ville morte.